Radio Classique, les invités culture de Patrick Poivre d'Arvor.
Et donc cette page culture avec, on va parler d'exposition par exemple, avec Guy Boyer qui est allé voir l'exposition d'Irving Penn au Grand Palais. On va parler de livres surtout, hein. On va parler par exemple bien avec sûr. Vous, on va parler d'un livre qui était jusqu'alors en lice pour le prix Goncourt et qui,
aujourd'hui il a disparu, mais c'est pas grave, ça nous aura permis au moins de le découvrir et de s'en régaler. Ça s'appelle Nils et c'est publié chez Viviane Ami.
Et puis avec Gilles Lapouge, on va rêver un peu, on va parler de l'Atlas des paradis perdus qu'il a publié chez Artaud, qui vraiment à tout point de vue nous font rêver, parce que c'est il y a des vrais paradis, des réels paradis qui existent toujours, puis des paradis qui sont suspendus. On en parle dans quelques instants. Avec vous, Mona Thomas, on va évoquer la mémoire d'une grande dame que vous nous permettez de mieux découvrir, que vous appelez la Grande Marie, l'histoire de la Grande Marie. Elle s'appelait Marie de Dieu, c'était une forme de nom quand même prédestiné. Et chez Arléa, vous rendez hommage à cette dame. Alors peut-être pour les auditeurs, ça leur dit rien sur le moment, mais si on leur dit que c'est quelqu'un qui a été enlevé au large du Kenya il y a 6 ans et qui finalement qu'on a retrouvé morte en Somalie, on comprend qu'il s'agit de cette fameuse otage alors qu'elle pouvait à peine se déplacée et qu'elle avait eu un parcours assez flamboyant puisque c'était une féministe, c'était une comédienne, elle avait tourné dans un film de Truffaut qui était Dernier domicile connu je crois, ou Le dernier métro.
Elle a joué dans Domicile conjugal.
Domicile conjugal,
oui,
exactement.
Elle a fait une apparition très remarquée dans Domicile conjugal.
Oui, oui. Et peu de temps après, il lui arrive un accident
De la route, ouais. Qui la prive surtout de la mobilité. Mmh. Un accident qui faisait qu'elle ne se déplaçait pas seule, mais qu'en même temps, elle a toujours souhaité, voulu, et elle s'est toujours battue pour, comme elle disait, vivre debout parmi les gens debout. C'est-à-dire, d'une certaine façon, elle n'a pas accepté le fait d'être ce qu'on appelle handicapée.
Voilà. Donc elle considérait qu'elle ne l'était pas.
Et comme son visage n'était pas blessé, n'était pas atteint par l'accident, cette immobilité de son corps était très étrange et parfois on ne voulait pas savoir qu'elle était handicapée. Et donc au cinéma ou bien en promenade, des gens pouvaient manifester de la mauvaise humeur parce qu'elle avait ce papillon grand handicapé sur la voiture et qu'en même temps elle ne paraissait pas entre guillemets si handicapée que ça.
Alors, t'es tué par qui finalement ?
Alors Gilles Lapouge demande, en effet, il faudrait parler devant le micro Gilles, par qui a-t-elle été tuée ? Est-ce qu'on a su finalement les circonstances de l'enlèvement ?
Non, puis tout ça est très trouble et justement c'est pour ça que je parle beaucoup dans le livre du fait que sa dépouille n'a pas été retrouvée, bien qu'elle ait été dans un premier temps proposée à l'État français contre rançon, la dépouille de son corps. Elle n'a pas de sépulture connue. Elle est morte quelque part dans le Harar, cette région
chère à Rimbaud.
Et c'est pourquoi j'ouvre le livre avec ce mot de Rimbaud qu'elle m'avait envoyé dans un mail sur l'Afrique. Et on ne sait pas où elle est morte. Et pour moi, qui suis de culture catholique, il était très étrange, c'était très très étrange de pleurer quelqu'un de...
Qui n'avait pas de sépulture.
Voilà, qui n'avait pas de sépulture. Et on ne pouvait même pas imaginer un jour mettre un petit caillou ou une fleur ou sur l'endroit. Enfin,
d'autant qu'elle avait été enlevée dans un endroit où elle était très idolâtrée. On aimait beaucoup. C'était une des rares femmes blanches de l'île, mais c'était, elle était chez elle, qui est justement une forme de paradis perdu, cher Gilles
absolument.
Lapouge.
Paradis possible aussi pour elle.
Qui s'appelait Lamou, donc cette île de Lamou, et puis on a été très étonnés qu'elle soit enlevée. Ouais. Qu'elle soit enlevée, et donc apparemment après séquestrée en Somalie.
Et sa mort est avérée.
Oui, sa mort est avérée. Et c'était quelqu'un qui était à la fois très forte et qui, en même temps, avait besoin dans la vie de tous les jours d'une certaine de soins, de médicaments, de pour la tenir, de vitamines pour le cœur, enfin de choses comme ça. Et il est évident qu'en dehors des soins et d'une vie douce, d'une vie bonne qu'elle avait aussi bien en Afrique qu'à Paris. Être transporté comme ça dans un bâcher, ces camions en Afrique qu'on appelle les bâchers, avoir affaire à des jeunes ravisseurs qui n'étaient pas très soucieux de son confort matériel et de santé, il est évident qu'elle n'allait pas tenir très très longtemps, que ses forces allaient s'épuiser vite.
Alors vous l'avez connu il y a fort longtemps.
Oui, il y a plus de 40 ans.
Voilà, vous le racontez dès le début du livre. Vous avez avec elle, par exemple, participé à la création du journal du MLF
brûle.
Qui s'appelait le
Torchon
le
Brûle.
Torchon Brûle. Donc, c'était une des féministes comme vous à l'époque en 71, peu de temps après 68.
Oui, en 70, c'était surtout une de ces femmes flamboyantes qui étaient, disons, des femmes en mouvement, comme on disait à l'époque, plus que le mot féministe, c'était surtout être des femmes ensemble et travailler ensemble les questions de la vie des femmes dans la société. Et oui, alors avec Marie, c'était une forme de militance où on dansait, on s'amusait, on parlait et on faisait un journal. Et je l'ai connue comme la plupart de ses amies à ce moment-là. Et c'est pourquoi aussi j'ai voulu écrire cet hommage d'une amitié, mais dans le temps. Parce que je pense que le temps apporte quelque chose une autre lecture à l'amitié. Ça s'inscrit différemment, ça s'inscrit dans une plus grande richesse que simplement l'amitié qu'on vient de découvrir dans le présent.
Très beau témoignage et très bel hommage donc à Marie de Dieu, signé Mona Thomas chez Arléa. Avec aussi une très belle photo d'entrée où on la voit sourire et rire. Merci beaucoup. Et la citation de Rimbaud, en effet, était tirée d'Une saison en enfer. Et si je parle d'Une saison en enfer, c'est qu'évidemment, je veux arriver au paradis perdu de Gilles Lapouge. Alors, vos paradis perdus, donc ça se présente sous la forme d'un atlas. Mais on sent que vous y résumez une bonne partie de votre vie et de vos rêves, surtout.
C'est vrai, c'est vrai. C'est, d'une certaine manière, c'est un livre qui repasse un peu tout ce que j'ai écrit en pointillé. Et en particulier, Les Utopies, qui est un de mes premiers livres, qui sont une tentative de paradis, mais qui échouent lamentablement.
À peu près toutes.
Tous. Mm-hmm. Alors là, je prends un exemple, c'est celui de la Cecilia. C'est donc au 19e siècle, des gens qui partent au Brésil avec le soutien de l'empereur Pedro II, qui est l'empereur brésilien. Et ils vont faire là-bas une société du bonheur, une société de l'amour au départ. Ce sont des gens de gauche, comme il y en avait beaucoup à l'époque en Italie. Et ils arrivent dans un endroit qui, à l'époque, n'était pas du tout fréquenté, du côté de Londrinas. Et là, ils se mettent à travailler pour vivre. Et ça tourne, comme tout, presque toujours, toutes ces tentatives, ça tourne au vinaigre immédiatement.
Un peu comme ça s'est passé, vous ne l'évoquez pas dans votre livre, mais Libertalia, par exemple,
c'est Libertalia,
au large de Sainte-Marie, de Madagascar.
Attention, Libertalia n'a pas existé. Hein.
Non, je sais, mais c'était une utopie.
C'était une utopie.
Une vraie utopie, oui.
Mais seulement, on a cru que c'était la vérité.
Oui, oui, oui. Mais c'était fondé par des pirates.
Et celui qui a fait le canal.
Enfin, espéré par des pirates.
C'est Daniel de faux, rien que ça.
Voilà.
Oui. Donc, la Cécilia, alors après, ils s'aperçoivent que s'ils se disputent tous entre eux, c'est à cause de la famille, à cause des femmes. Donc, ils prennent.
Vous voyez, Mona, donc, toujours votre faute.
Ils changent complètement leur fusil d'épaule, ils se nomment anarchistes, et toutes les femmes et les hommes n'ont pas de point fixe. Donc, c'est de l'amour universel. Mmh. Et c'est un peu plus grave encore, un peu plus lamentable que la première tentative.
Alors, il n'y a pas que ces utopies-là.
Non.
Il y a des vrais paradis.
Il y a les vrais paradis, en tout cas ceux qu'on nous donne pour tels, et ouais. Les paradis de soit des religions, soit de la mythologie, qui sont évidemment les plus nombreux, les plus intéressants. Et c'est curieux parce que, par exemple, si vous avez le paradis
Du paradis d'Adam et Ève.
Adam et Ève, bon, il est assez connu, mais il y a un aspect qu'on ignore totalement, c'est le...
C'est l'envers de
c'est
ce
l'envers
paradis.
Oui,
paradis. Alors ça, c'est passionnant.
Ça, on le sait pas.
Je le découvre dans votre texte.
Oui, et moi, je l'ai découvert en travaillant.
Je résume pour Élodie, par exemple. Bon, il y avait Abel et Caïn. Oui, bon, il y en a un qui tue l'autre. Mais que devient celui qui a tué l'autre? Abel, il se retrouve...
Alors, l'Éternel lui dit, bon, on va pas te tuer quand même, il faut pas exagérer, mais... tu t'es très mal conduit, tu es un des premiers hommes et tu le tues, en plus c'est ton frère. Effectivement, l'Éternel avait raison, à mon avis. Mais il le tue pas, et il dit à Morcas, je vais devenir. Il dit, tu vas aller dans le pays de Pad, je crois.
Oui,
dans le pays de Nod. Alors le pays de Nod, dont j'avais jamais entendu parler, mais qui est dans la Bible, hein, tout ça. Le pays de Nod, c'est une espèce de...
De désert
total, immense, dans lequel il n'y a personne. Puisque Caïn et Abel, ce sont les deux premiers hommes, donc forcément, il n'y a personne. Alors il est là, et il essaye de survivre, il survit d'ailleurs, en mangeant des herbes, etc. Puis, des années plus tard, il rencontre une femme. Et la femme, il ne se pose pas la question de savoir si elle est jolie, c'était la seule femme au monde, donc il n'y avait pas beaucoup de choix. Et ils s'entendent bien, tous les deux. Et puis, quand même, il pose le problème.
Oui.
Il dit, mais d'où tu sors, toi? Il demande à la fille. Ben, elle dit, ben, je sais pas, moi, je suis là. Mais enfin, moi, je suis la première génération, c'est, la Bible le confirme. Donc, forcément, t'es ma sœur.
Voilà, donc alors, ça a commencé par un inceste.
Ils sont ennuyés comme tout. Et puis, quand même, ils se disent, ben, tant pis, on va faire l'inceste. Donc,
meurtre, finalement, inceste.
Alors il y a un nommé Enoch qui naît un petit enfant, ouais, et qui fait une nouvelle lignée.
Et qui est peut-être
humaine,
un de vos ancêtres, normalement.
Un de nos ancêtres, normalement. C'est un de nos ancêtres.
Ouais.
C'est peut-être la véritable. Donc nous sommes nés, enfin l'espèce humaine, au départ il y a. Une faute grave, puisque ça nous coûte le paradis.
Oui, on a touché à la pomme, goûté à la pomme.
Le meurtre de son frère en plus.
Et un inceste. Mais dites donc, ça démarre bien. Voilà, très, très beau livre, en plus, très joliment présenté, très bien édité par Artaud, et ça s'appelle Atlas des paradis perdus, signé Gilles Lapouge. Dans un instant, Élodie Fondacci.